Une autre vie s'invente ici.
Village et patrimoine du parc naturel régional des Grands Causses.
Une autre vie s'invente ici, c'est aujourd'hui sur la commune de Saint-Jean et Saint-Paul. Le territoire de la commune de Saint-Jean et Saint-Paul est situé à une quinzaine de kilomètres de Saint-Affrique et à une dizaine de kilomètres de Roquefort. C'est au milieu du XIIe siècle que le vocable « Mas d'Olcas » apparaît dans certains textes. Le village appartient alors à l'abbaye de Noninque. Quand un Saint-Paul défond, son peuplement remonte au troisième millénaire avant notre ère. Les premiers habitants donnèrent leur nom à toute une civilisation, la civilisation du groupe des Treilles, du nom de la grotte située dans la falaise de Saint-Paul-des-Fonds et fouillée par Louis Balsan dans les années 30. Plus récemment, des scientifiques de renom s'y installèrent. Le botaniste Hippolyte Coste y fut curé et le mathématicien et ministre Émile Borel y eut une maison. En 2011, la commune comptait 268 habitants. L'économie de la commune est caractérisée par une agriculture traditionnelle extensive, fondée sur l'élevage pour la production laitière de brebis, destinée à l'élaboration du fromage de Roquefort, et pour la production de veaux et agneaux, destinés à l'engraissement. Des diversifications existent, elles sont tournées vers l'apiculture, la production de bois de chauffe et le tourisme rural. On trouve sur la commune des sites naturels comme le cirque de Saint-Paul-des-Fonts ou la grotte des Treilles. La commune présente aussi un patrimoine bâti important, avec notamment des granges monastiques telles celles de Cossanuéjouls, Cossanus, Lafage et Massergue. La tour carrée de la Vialette ou le village fortifié de Saint-Jean-d'Alcas, dont les remparts sont intacts. Le village appartenait à l'abbaye cistercienne de Noninque quand il fut fortifié au milieu du XVe siècle. Il est établi selon un plan rectangulaire, avec des tours rondes aux angles. L'église plus ancienne a été intégrée aux fortifications. C'est dans le village de Saint-Jean-d'Alcas que nous nous sommes rendus pour cette nuit de la thermographie. Alexandre Chevillon est chargé de mission énergie plan climat territorial au parc naturel régional des Grands Causses. Il nous présente la nuit de la thermographie.
Ça fait maintenant 4 ans qu'on essaye de s'engager sur ces questions d'énergie. C'est une mission nouvelle qui a été créée au parc il y a 4 ans. Et voilà, ça passe par l'accompagnement des communes, par des animations grand public. Et sur les animations grand public, on a fait le constat qu'au début, on faisait des animations, des conférences, des visites de sites sur Millau. Et on s'adressait un petit peu toujours aux mêmes personnes, souvent des convaincus. Et toujours aux populations entre guillemets urbaines. Donc on a essayé de trouver des animations à proposer aux territoires ruraux, aux petits villages. Et donc c'est de là qu'est né ce programme des nuits de la thermographie, qui est réservé exclusivement donc aux communes rurales de moins de 1000 habitants l'an dernier. On a organisé 6. Et cette année même, on a essayé de descendre à moins de 500 habitants. Et donc l'idée, il y a 3 temps dans ces nuits de la thermographie. Le premier temps, c'est avec les écoliers, ce qu'ils viennent de nous présenter, donc des animations dispensées par le CPIE. Deuxième temps, c'est la nuit de la thermographie, donc la soirée de ce soir. Là, l'idée, ça va être de vous présenter pourquoi il faut rénover, comment on peut rénover, quelles sont les aides financières dans la rénovation énergétique de l'habitat. Et puis on terminera avec Thierry Lagen du bureau d'études Systema Formation, qui va nous présenter un outil ludique et très visuel pour visualiser les défauts d'étanchéité et d'isolation des bâtiments. Donc c'est la caméra thermique infrarouge, l'objet que vous avez devant. Donc il va nous présenter à quoi ça sert, comment ça fonctionne, et puis derrière on ira faire une balade dans les rues du village pour regarder les défauts d'isolation des bâtiments publics, voire privés. Si on passe devant vos habitations et que vous souhaitez regarder vos maisons, on pourra également le faire.
Madame Gaben, institutrice à Saint-Jean-d'Alcas, nous présente le partenariat pédagogique avec le CPIE du Rouergue.
Tout à fait, donc c'était avec le CPIE. Donc c'était un projet autour de l'énergie qui rentrait complètement dans le cadre du programme de l'école. Donc dans un premier temps, ils ont abordé l'ensemble des énergies. Donc ils ont vu ensuite qu'il y en avait des énergies renouvelables, non renouvelables, etc. Et ensuite, donc, ils sont passés plus sur un aspect, on va dire, citoyen, puisqu'ils ont abordé donc comment économiser ces énergies-là avec l'intervenante du CPIE. Voilà. Donc aujourd'hui, après, c'est l'aboutissement de ce travail en classe, donc avec l'exposition des dessins qui sont là, donc où les enfants représentaient en fait la maison, leur maison entre guillemets idéale. Voilà, donc avec ce qu'ils pourraient avoir à l'intérieur pour faire des économies d'énergie dans leur maison. Ouais. Oui, voilà, donc l'isolation, puisqu'il y a des travaux qui ont été réalisés sur l'école, là, il y a peu de temps, avec le changement des fenêtres de la classe. Donc voilà, ça leur a permis de voir, et j'espère que ce soir, on va pouvoir voir avec la caméra ce qui se passe un petit peu plus chez nous, dans notre école. Voilà.
Est-il prévu d'aller faire quelques mesures avec la caméra thermique sur l'école ?
Tout à fait, pour voir les changements qui ont été amenés par ce changement des fenêtres, justement. Quoi. Voilà, donc un petit tour du village, et notamment de l'école. Alors, il y a des mesures qui ont été faites, donc pas avec la caméra thermique, mais par contre des relevés d'électricité qui vont se poursuivre là dans les mois à venir, pour voir en fait un éventuel changement au niveau de la consommation de l'école. Quoi. Voilà, donc on va refaire des mesures dans les premiers mois de l'année, mais ça je pense que Madame le maire vous en parlerait un petit peu plus que moi. Oui, bon après c'est l'imagination des enfants de toute façon, hein, mais je crois qu'ils sont partis sur le mot idéal aussi, on leur a demandé de dessiner leur maison idéale. Et donc voilà, bon après c'est l'imagination des enfants qui a fait le reste quoi.
Alexandre Chevillon, comment est née l'idée d'organiser ces nuits de la thermographie ?
L'idée qu'on avait, c'était de proposer une animation qui sorte un peu des animations classiques où on fait des visites, conférences à la salle de la chambre de commerce de la CCI. Et c'était d'aller au plus près de la population et d'aller dans des petits villages des mardis soirs en plein hiver, non pas pour s'adresser à des gens convaincus, mais plus pour s'adresser à un public de curieux qui viennent non pas parce qu'ils sont intéressés, peut-être, mais qui viennent surtout, à mon avis, par curiosité, parce qu'il se passe quelque chose un mardi soir de plein hiver dans le village de Saint-Jean-d'Alcasse. Voilà. Donc c'était l'idée première du projet. Et puis après, pour nous, donc, c'était aborder cette question de la rénovation énergétique de l'habitat, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros chantier en cours. Il y a des incitations fiscales qui sont fortes pour rénover énergétiquement les bâtiments des particuliers. Et l'idée, nous, c'est de diffuser l'information, de montrer qu'il y a des dispositifs financiers, de montrer aussi qu'on est là pour accompagner avec l'espace Info Énergie les particuliers dans la rénovation de leur habitation.
Quel partenariat avez-vous mis en place autour de ces nuits de la thermographie ?
Donc le parc, on va dire, chapeaute l'opération, mais derrière, les animations scolaires sont faites par le CPIE en lien avec l'éducation nationale. Donc c'est quelque chose qui rentre dans le programme scolaire de l'éducation nationale. Il y a l'espace Info Énergie qui nous accompagne sur toutes les soirées justement pour présenter ces aides financières. Et puis parce que c'est l'interlocuteur unique en Aveyron. Et puis il y a aussi les professionnels de la caméra thermique, donc on en a deux sur le territoire qui tournent à tour de rôle sur les différentes animations, et donc on les met en avant leur travail, leurs compétences à travers ces nuits de la thermographie.
Dans quel laps de temps comptez-vous couvrir le territoire du parc avec ces animations ?
On était parti sur l'idée d'une une animation par canton, donc on en a organisé 6 l'an dernier, 6 de programmés cette année, donc on aura maillé tous les cantons à l'exception des deux cantons urbains de Millau-Est et Millau-Ouest, sur lesquels c'est un peu particulier, où il y a déjà eu de la thermographie non pas infrarouge, non pas portative avec des balades nocturnes, mais par contre il y a eu une opération de thermographie aérienne qui a été menée par la communauté de communes en 2011-2012, et du coup on voulait pas venir derrière avec une nouvelle animation pour privilégier le reste du territoire, le territoire rural et les petites communes. Parce que je rappelle, hein, l'an dernier on était sur des communes de moins de 1000 habitants et cette année sur des communes de moins de 500 habitants.
Est-il prévu d'évaluer les retours sur ces animations? Et quelles sont les suites envisagées ?
Oui, tout à fait. Alors déjà, il y a toute l'évaluation des animations scolaires où donc chaque année, en fin d'année, on réunit l'éducation nationale. Il y a des enquêtes qui sont envoyées aux écoles pour voir ce que les enfants ont retenu des animations. Ça, c'est la première évaluation. La deuxième, c'est le taux de fréquentation à chaque soirée qui fluctue suivant les conditions météorologiques et surtout le programme télé de la soirée. Et puis la dernière évaluation, c'est les retours vers l'espace info-énergie, parce que l'an dernier, il y a quand même une quinzaine ou une vingtaine de particuliers qui, suite à ces nuits de la thermographie, ont recontacté l'espace info-énergie pour étudier leur projet de rénovation et étudier en détail les aides financières dont ils peuvent prétendre.
À ce jour, y a-t-il eu des projets réalisés suite à ces nuits de la thermographie ?
Alors, c'est peut-être encore trop tôt pour le dire, hein, parce qu'on n'a qu'un an de temps de retour. Hein. Il y a qu'un an qu'on a commencé. Des rénovations de particuliers, il y en a beaucoup qui se font, parce qu'il y a un contexte économique, un prix de l'énergie qui croît, des aides financières qui sont quand même conséquentes et incitatives. Par contre, après, avoir des retours précis du nombre de rénovations engagées par commune sur le territoire du parc, c'est très compliqué à avoir, parce que autant on peut récupérer les chiffres des personnes qui ont sollicité peut-être du crédit d'impôt ou des éco-chèques à la région Midi-Pyrénées. Par contre, il y a plein de personnes qui rénovent leur habitat sans passer par la case aide financière. Ce soir encore, il y a une personne dans l'Assemblée qui m'a dit « C'est dommage, j'aurais su tout ça, j'aurais peut-être été sollicité des aides au niveau de l'ANA parce que mes conditions de revenus permettaient d'être éligible à ces aides, mais je ne savais pas qu'il y avait tout ça ». Voilà. Et nous, tout notre rôle, c'est d'informer déjà, de montrer qu'il y a ces aides et de montrer qu'on est là pour accompagner les particuliers.
Les démarches de sobriété énergétique et d'amélioration de l'habitat sont-elles complémentaires ?
Oui, l'un va pas sans l'autre, quoi. Vous pouvez avoir un bâtiment super isolé et chauffé à 24 degrés qui vous coûtera énormément d'argent. Donc il faut coupler les deux. Et s'il y a une priorité à donner, c'est avant tout quand même sur la sobriété, éviter le gaspillage avant tout, quoi. Le gaspillage d'énergie. Et pour ça, il y a tout un tas de gestes. Et c'est ce qu'on essaye d'apprendre avec les familles du défi famille énergie positive. Mais les deux chantiers doivent être menés de front. Et ça va avec le troisième point, qui est les énergies renouvelables. Mais dans l'ordre, c'est bien la sobriété, la chasse au gaspillage, l'efficacité, donc on isole les logements. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut réfléchir à passer sur un chauffage au bois, du solaire thermique, etc. Mais c'est bien dans cet ordre-là qu'il faut voir les choses. Ça ne sert à rien de mettre une pompe à chaleur sur un bâtiment qui n'est pas isolé, où le chauffage serait mal régulé et où on aurait des fuites d'énergie partout.
Comment envisagez-vous la promotion des énergies renouvelables ?
Envers le particulier, nous, on incite énormément à la mise en place de chauffage au bois, parce que c'est une ressource qui est conséquente dans la région, qui est conséquente et qui est aujourd'hui sous-exploitée. En Aveyron, il y a seulement 30% de la pousse de la forêt, donc de ce que produit la forêt chaque année par rapport à l'année précédente, qui est prélevée. C'est-à-dire que la forêt croît chaque année, à tel point qu'en 1995, au début du parc, on était à 30% de couverture forestière. Aujourd'hui, on est à plus de 40%. Voilà. Donc la forêt gagne, les milieux se ferment, notamment les causses. Donc il y a une ressource qui est conséquente, qui est sous-exploitée. À l'heure actuelle, et donc nous, on incite justement les particuliers à s'équiper de chauffage au bois, mais comme je vous le disais tout à l'heure, après tous les travaux d'économie d'énergie. Et puis aussi, il y a une énergie qui est abondante aussi, c'est tout ce qui est solaire. Le solaire, il y a trois formes. Déjà, le solaire passif, c'est le solaire, c'est le bon sens, quoi. C'est les apports solaires des baies vitrées, des ouvertures. Voilà, on incite à tout ce qui est construction bioclimatique, etc. Il y a le solaire thermique, donc pour produire soit l'eau chaude, soit l'eau pour le chauffage, ou soit les deux même. Et puis il y a le solaire photovoltaïque. Donc s'il y a une priorité à donner, là encore, c'est sur le solaire thermique, parce que le solaire thermique permet d'économiser directement de l'énergie. Si on économise de l'énergie grâce aux panneaux solaires sur la production d'eau chaude sanitaire, c'est de l'énergie électrique ou la chaudière à fioul qui va moins consommer. Donc on fait directement une économie d'énergie. À la différence du photovoltaïque, le photovoltaïque qui va produire de l'électricité, qui pour le coup va pas permettre d'économiser de l'énergie. Si vous payez 2000 euros de chauffage aujourd'hui, vous mettez du photovoltaïque, demain vous en paierez 2000, et surtout l'année prochaine vous en paierez peut-être 2100, et en 2020 3000. Donc vous serez toujours très vulnérable par rapport au coût de l'énergie. Le photovoltaïque, c'est vraiment voilà, c'est la cerise sur le gâteau. C'est une fois que tout est fait, dans une démarche vertueuse, de pouvoir contribuer à la production énergétique du territoire. Il n'y a pas une solution miracle, le chauffage au bois n'est pas possible partout, hein. Dans des immeubles de centre-ville, c'est compliqué de mettre du bois. Ce qui est sûr, c'est que la meilleure énergie, de toute façon, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc si on a de l'argent à mettre, mettons-le dans de l'isolation, ça rapportera beaucoup plus que n'importe quel système d'énergie renouvelable. Et puis effectivement, après, suivant les cas, on va privilégier du solaire, du bois. Certains cas où les besoins sont tellement infimes, on a besoin, par exemple, je prends l'exemple d'une salle des fêtes ou d'une église, on ne va pas installer des énergies renouvelables sur une salle des fêtes ou sur une église, des bâtiments qui sont chauffés ponctuellement, où il nous faut un chauffage qui soit très réactif, on ne va pas investir dans une chaudière à bois, encore moins dans du solaire. Voilà, on va rester sur des technologies classiques de radiant gaz, de radiant électrique, qui vont permettre de chauffer instantanément en très peu de temps et avec une efficacité quand même assez importante. Donc, et de même, si on met le paquet dans une construction de maison neuve aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir un système de chauffage performant et de mettre 20 000 euros dans une installation de chauffage si on a des besoins qui sont très réduits. Et on peut passer avec des systèmes de chaudière à gaz à condensation, des choses très simples comme ça, qui coûteront beaucoup moins cher en investissement.
Y a-t-il d'autres nuits de la thermographie prévues? Et si oui, où doivent-elles se dérouler?
Oui, tout à fait. On va poursuivre début 2014 avec Rebourguil le 14 janvier. Ensuite, on ira du côté de Saint-André-de-Vézines sur le Cosnoir le 28 janvier. Et on terminera par deux dernières nuits de la thermographie au mois de février sur Recoul-Prévinquier à côté de Sévrac-le-Château. Et la dernière sur Eysen, à côté de dans les Raspes du Tarn. Voilà. Donc l'idée qu'on a, nous, c'est de mailler tout le territoire. Après 2 ans, on aura organisé une animation par canton du territoire du parc.
Une autre vie s'invente ici.
Village et patrimoine du parc naturel régional des Grands Causses.